Il dit, louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa grâce, nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Vous vous en réjouissez, il nous rappelle à travers ça, de nous rappeler de l'espérance qui est la nôtre, de l'héritage qui ne se corrompt pas, qui nous attend là-haut dans le ciel. Et il dit, vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Voilà, bien-aimés. Et c'est vrai que si le Seigneur nous avait promis que tout irait bien dans notre vie, à partir du moment où on prend une décision pour lui, eh bien, ça serait, je ne sais pas s'il y aurait plus de monde qui l'accepterait. Mais une chose est certaine, c'est que c'est vrai que les épreuves sont là pour nous amener à réaliser, pour certains, si notre foi chrétienne est construite sur des sentiments ou si elle est construite sur la foi dans la personne de Jésus-Christ. Et souvent, quand c'est construit sur les sentiments, c'est que les sentiments changent, évoluent. Alors, une journée, ça va bien, une journée, ça va pas bien. Une journée, on est bien avec le Seigneur. Une autre journée, on trouve qu'il est loin de nous. Mais tout ça pour vous dire que, finalement, c'est ce verset qui a encouragé vraiment mon épouse. Elle a dit, gloire à Dieu, si cette maladie-là a pour le but d'abord qu'il se glorifie, mais deuxièmement, qu'il m'amène à éprouver la valeur de ma foi, bien, gloire à Dieu. Et je dois dire qu'elle est vraiment courageuse. Pour ceux qui la connaissent, vous savez qu'elle n'en a pas épais sur le dos, hein, il n'y a pas beaucoup de graisse. Alors, à chaque fois qu'elle subit une chimio, eh bien, elle est immobilisée dans son lit pendant une semaine. C'est vraiment de la chimio lourde. Alors, voilà. Tout ça pour vous dire que finalement, la médecine, elle soulage, mais que c'est Dieu qui guérit. C'est ce qu'il dit dans Deutéronome. Et Dieu est en contrôle de la maladie. Et en cela, eh bien, nous nous réjouissons de voir qu'ensemble, nous puissions traverser cette épreuve. Avec aussi, je tiens à vous transmettre les salutations de mon épouse pour les prières que vous faites monter devant le trône de la grâce de Dieu pour que nous puissions continuer à supporter cette maladie, pas cette maladie, mais les traitements, finalement, en gardant nos yeux fixés sur celui qui a souffert beaucoup plus que nous sommes appelés à souffrir dans notre vie, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, bien, je vais aller dans l'Ancien Testament et par rapport à 1 Samuel 17 que notre frère nous a lu tantôt, eh bien, David dit, il dit qu'il est courageux, il est encouragé, il fonce, il va aller de l'avant concernant Goliath. Et une des phrases que moi j'ai retenues, c'est, il dit à Saül, « Le Seigneur sera avec moi ». Et j'espère que tout au long de la semaine, tout au long des jours que vous vivez, eh bien, vous avez la certitude que le Seigneur est avec vous, si vous marchez dans l'obéissance à sa parole, parce que c'est une promesse qu'il a faite dans Matthieu chapitre 28, lorsqu'il a dit à ses disciples, sachez-le, je serai avec vous tous les jours, et ce, jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur n'est pas comme les hommes, nous dit la parole, il n'est pas menteur. Donc, ce que le Seigneur dit, non seulement il est la vérité, mais il dit la vérité. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui ne nous trompera jamais. Les Écritures, elles sont la vérité, elles dégagent finalement la personne qui est appelée la vérité, qui est appelé aussi la grâce. Et en cela, eh bien, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa patience envers chacun de nous et aussi pour son amour envers chacun de nous qui ne faiblit jamais, jamais. Alors, j'aimerais prendre un texte de l'Ancien Testament ce matin dans Deutéronome chapitre 11. Le verset 12 sera le verset principal. C'est, on retourne un peu en arrière, les Israélites, on se rappelle qu'ils avaient séjourné pendant 400 ans en Égypte. Et au chapitre 11, Moïse va les informer que le pays de la Palestine où il va les conduire, ne ressemble pas du tout à l'Égypte. Il décrit ce pays comme étant, et c'est notre verset de ce matin, un pays de montagnes et de vallées qui est arrosé par les pluies. C'est un pays, dont Dieu prend soin et sur lequel il a continuellement les yeux fixés du début jusqu'à la fin de l'année sur vous. Bien-aimés, Dieu a son regard fixé sur vous jour après jour, bien-aimés. Nous bénéficions de la protection de Dieu. Nous bénéficions de la bénédiction de Dieu. Nous bénéficions de la présence de Dieu. Et en cela, c'est un peu ce que je veux vous rappeler ce matin. Je sais que vous êtes une église en bonne santé, je pense, hein, spirituellement parlant. Mais on a toujours besoin de nourriture. Alors, par la grâce de Dieu, j'espère que ce matin, le Seigneur va m'utiliser pour vous faire, pas grossir, mais grandir dans votre foi et dans la connaissance de la personne de Jésus. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ton salut en Jésus, pour ton amour manifesté sur cette croix. Merci, Seigneur, parce que jour après jour, tu nous accompagnes sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Ô Seigneur, combien, lorsque nous regardons la condition du monde aujourd'hui, combien nous espérons le retour de Jésus le plus rapidement possible pour mettre fin à toute cette misère sur cette terre. Seigneur, en tant que ton Église, nous voulons continuer à refléter, Seigneur, que nous sommes les bénéficiaires de ta grâce, que nous sommes les bénéficiaires de ton amour envers ceux et celles que tu nous permets de rencontrer jour après jour. Seigneur, que tu puisses ouvrir nos bouches afin que nous puissions leur témoigner du miracle que tu as opéré dans notre cœur, Seigneur, à savoir, Seigneur, que maintenant nous n'appartenons plus à ce monde, mais à ce monde que tu vas créer un jour, à ce nouveau monde que tu vas créer. Et en attendant, eh bien, Seigneur, nous vivons dans l'espérance, Seigneur, de ce que tu as déposé dans nos cœurs, la vie éternelle, Seigneur, sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux que tu recrées, que tu créeras un jour. Reçois-en toute la gloire et, Seigneur, je te demande pour ce message ce matin, toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et tends ta main pour que des miracles et des prodiges s'accomplissent. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ, ton fidèle serviteur. Et c'est en lui que je t'ai prié. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alors, en Égypte, les Israélites étaient les esclaves et ils devaient compter sur eux-mêmes pour survenir à leurs besoins. Et leur fardeau était devenu tellement lourd à porter qu'ils se trouvaient dans une situation désespérée. Ils vivaient dans l'incertitude, dans la crainte, dans la tristesse, dans la désillusion et dans la déception. Ils savaient qu'ils ne retireraient aucune joie, aucun réconfort, ni aucune bénédiction, tant et aussi longtemps qu'ils demeureraient dans ce statut d'esclave. Alors Moïse va leur rappeler qu'ils font maintenant partie du peuple de Dieu et qu'ils sont appelés à vivre par la foi et à habiter dans un autre pays où ils risquent non seulement de rencontrer les mêmes difficultés, mais de vivre les mêmes épreuves que les gens du monde. C'est vrai que le Seigneur ne nous a pas dit qu'on ne passerait jamais par les épreuves. C'est vrai que le Seigneur nous a dit que quand on serait sauvé, on ne serait pas atteint par la maladie. J'aime bien l'image que Paul utilise quand il compare notre vieille carcasse à une vieille tente dont les coutures sont en train de lâcher tranquillement de chaque côté. Je ne sais pas si vous avez déjà dormi dans des tentes de l'armée, mais quand il y a des coutures qui sont usées, on le sent quand il pleut. On le ressent hein, fortement. Alors, c'est un peu ce qu'on sent. Mais ce qui est béni, par contre, sur cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, dans la gloire de Dieu, il n'y aura pas d'hôpital, il n'y aura pas de maladie, on n'aura plus besoin de porter de lunettes, plus d'arthrite, on aura un corps glorifié, bien-aimé. Le corps que Jésus avait, exempt de maladie, exempt d'âge, il n'y a plus les années n'existeront plus puisque nous allons vivre dans l'éternité, bien-aimé. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est mon espérance. Je sais que c'est aussi la vôtre ce matin. Pardon. Moïse leur rappelle qu'ils vont affronter ces épreuves différemment parce qu'ils savent que leur Père céleste aura les yeux continuellement fixés sur ce pays qu'il leur donne, et ce, du commencement jusqu'à la fin. Cependant, si Dieu a les yeux fixés sur ce pays, il ne peut faire autrement que d'avoir aussi les yeux fixés sur ceux qui font partie de son peuple. N'est-ce pas là une nouvelle réjouissante pour vous, bien-aimés? N'est-ce pas là une nouvelle réjouissante pour nous, bien-aimés? Frères et sœurs, vous qui croyez, vous qui avez mis votre confiance en Jésus, vous qui avez abandonné votre ancienne vie de péché, vous qui avez obtenu le salut et marché par la foi, vous allez savourer ce matin ce texte. J'espère, en tout cas, comme moi je l'ai savouré, que nous venons de lire ce verset. Parce que c'est aussi à nous qui avons délaissé le monde. Ça s'adresse aussi à nous qui avons délaissé le monde pour marcher en nouveauté de vie avec lui que Dieu s'adresse ce matin. Vous avez laissé le désert de condamnation et de crainte derrière vous. Vous êtes entré dans le pays de Canaan par la foi. Et maintenant, Dieu vous promet qu'à partir du moment où nous nous sommes tournés vers lui, ses yeux seront continuellement fixés sur vous dès le début de l'année et ce, jusqu'à la fin de l'année. Quel Dieu merveilleux nous avons, bien-aimés. Quel Dieu merveilleux nous avons. Le premier mot qui retient, en fait, c'est le texte que j'aimerais examiner, le verset. Et le premier mot qui a retenu mon attention en méditant sur ce passage, c'est le mot « yeux ». Ce ne sont pas les yeux de n'importe qui sont sur nous, bien-aimés, mais ce sont les yeux de l'Éternel, bien-aimés. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et quand on essaye de comprendre comment est fait Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu, plus on cherche à comprendre ce qu'il est, finalement, plus c'est difficile pour nous de le décortiquer. Moi, vous savez, je vous vois aujourd'hui. Là, je vois mes mains, là. Ça, c'est mes yeux, ça. C'est le maximum que mes yeux peuvent faire. Mes yeux, bien-aimés, ils voient partout. Non seulement dans cette salle, il voit partout sur la terre ce qui se passe, bien-aimé. Il n'y a rien qui ne lui échappe, rien n'échappe à son œil, bien-aimé. Essayez de le décortiquer, ce Dieu merveilleux, bien-aimé. Ses oreilles, bien-aimé. Moi, si vous parlez de là-bas, je ne suis pas convaincu, je vais maintenant vous entendre à l'âge que je suis rendu, mais il y a une chose dessus, il n'y a rien qui échappe à l'oreille de Dieu. Aucune voyelle, aucune consonne, peu importe la langue qui est parlée sur toute la terre, il n'y a rien qui échappe à l'oreille de Dieu, bien-aimé. Essayez de décortiquer Dieu. Il est unique, bien-aimé. Il est unique. On ne peut le comparer avec personne, bien-aimé. Et c'est ce Dieu-là qui a accepté, qui a choisi que nous passions l'éternité avec lui. Pas nous, c'est lui qui nous a choisis, bien-aimé. C'est lui qui a décidé de nous faire participer à sa gloire pour l'éternité. Quel Dieu merveilleux nous avons. Et là, il promet aux Israélites, je serai avec vous, je vais garder un œil sur vous pendant tout le temps de votre pèlerinage avec moi. C'est extraordinaire, ce Dieu merveilleux, bien-aimé. Et c'est la promesse qu'il nous fait aussi à travers Jésus-Christ. Sachez-le, je serai avec vous tous les jours et ce, jusqu'à la fin du monde. Oui. Et il est capable de tenir cette promesse puisqu'il n'est pas mort il y a plus de 2000 ans. Il est ressuscité, il est revenu à la vie, il est vivant, bien-aimé. Nous savons que Dieu a vu l'adultère de David comme il a vu la trahison de Judas lorsqu'il s'est approché de Jésus pour lui donner un baiser. Tout comme Dieu a vu la femme pécheresse qui a mouillé de ses larmes les pieds de Jésus parce qu'il lui avait pardonné ses péchés. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, et sur celui qui craint ma parole, dit-il à Isaïe, au chapitre 66, verset 2. Bien-aimés, les yeux du Seigneur sont sur les justes, c'est-à-dire sur ceux qui craignent sa parole, qui se réjouissent en lui. Il ne fait pas que les regarder, mais il les observe avec un soin et un intérêt particulier. Ce que notre texte fait ressortir ce matin, c'est que si Dieu garde ses yeux sur nous, et ce, à partir du début jusqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, c'est parce qu'il nous aime, bien-aimés. Dire qu'au autre côté, si Dieu aime le monde, il exprime cet amour différemment lorsque cela concerne ceux qui lui appartiennent. Il exprime cet amour différemment. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ et parce qu'ils marchent dans la vérité. Voilà qui devrait vous rassurer. Voilà qui devrait vous réjouir, bien-aimé, ce matin. Dieu ne laisse jamais tomber personne, bien-aimé. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Vous dites « Amen » à ça. Frères et sœurs, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie. Moi, je ne t'oublie pas, dit le Seigneur, car j'ai ton nom gravé sur les paumes de ma main. Et c'est ce qu'il disait à Isaïe, chapitre 49. Lorsque je pense au texte que nous avons devant nous, je pense aux paroles de Moïse lorsqu'il a dit à Dieu, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Dieu venait juste de lui dire pour le rassurer, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » N'est-il pas rassurant de savoir que jamais, au grand jamais, Dieu va déléguer à d'autres le secours et le réconfort qu'il peut lui-même apporter à ceux qui appartiennent à ceux qui appartiennent à son peuple. Voilà pourquoi, si Dieu dit qu'il aura continuellement les yeux fixés sur nous du commencement jusqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, nous pouvons dormir en paix, bien-aimés. Il est toujours à nos côtés. Il est toujours avec nous. Il nous accompagne dans les bons comme dans les mauvais moments, bien-aimés. C'est un compagnon qui est fidèle, bien-aimés. Le deuxième mot qui a retenu mon attention, c'est le mot « continuellement ». Les yeux du Seigneur sont continuellement, c'est-à-dire toujours sur son peuple. Et ce, du premier jour jusqu'au dernier jour de l'année. Cela est tellement clair que nous ne pouvons pas imaginer que pendant un seul jour, une seule heure ou une seule minute dans notre vie, Dieu puisse détourner son regard de nous. J'ai essayé d'imaginer quel pourrait être un meilleur moment où quelqu'un pourrait se passer de Dieu. J'ai pensé que cela pourrait être pendant la période où tout va bien pour lui et que son patrimoine s'enrichit. c'est le problème de l'Église en Occident. Hein? Le gros problème de l'Église en Occident, parce que vous savez que la seule place dans le monde entier où le christianisme ne diminue et ne grandit pas, c'est dans le monde occidental. Et la raison, souvent, c'est parce que l'Église est trop riche, bien-aimé. L'Église est trop riche. Et souvent, les Églises, là où ils sont persécutés, c'est vraiment où on doit se rencontrer dans la jungle, où on doit se rencontrer dans un endroit où on n'a pas de bâtiment, que ces gens-là grandissent, bien-aimé. Voilà. Il y a un Chinois, quand, je peux vous raconter cette histoire rapidement, vite. Wang Mingdao, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce Chinois, mais qui avait été arrêté pour sa foi, qui avait été placé en prison, et puis à un moment donné, eh bien, on lui permettait d'écrire des lettres, mais les lettres étaient contrôlées. Les gardiens lisaient les lettres de ce monsieur, de ce chrétien, et le directeur de la prison a vu qu'il y avait des changements dans le cœur des gardiens qui lisaient les lettres de ce chrétien qu'il envoyait à l'Église persécutée en Chine. Et finalement, ces gardiens devenaient des chrétiens. Ils ne maltraitaient plus les prisonniers. Et ça déplaisait au directeur de la prison. Alors, on lui a dit que s'il n'arrêtait pas d'écrire des lettres, eh bien, on lui couperait les mains. On lui couperait la main droite avec laquelle il écrivait. Et finalement, il a dit, écoutez, si vous êtes sérieux, il lui couperait la main gauche, pardon. Il dit, si vous êtes sérieux, vous me couperez la main droite parce que c'est avec celle-là que j'écris. On lui a coupé les deux mains. Alors les semaines ont passé et puis les gardiens venaient porter des choses à sa nourriture et tout ça. Et lui, il parlait avec les témoignants. Il continuait à témoigner aux gardiens. Il y a eu des changements d'attitude chez les gardiens, des changements de comportement chez les gardiens. Les gardiens se sont convertis. Et finalement, le directeur de la prison a fait une enquête et il a découvert encore une fois que c'était dans la même cellule avec le même gars avec qui ils avaient des problèmes. Alors, on l'a menacé de lui arracher la langue s'il continuait à dire, à donner des paroles, à dicter des paroles aux gardiens. Et finalement, il n'a pas renoncé à sa foi. On lui a arraché la langue. Et après ça, eh bien, on aurait pu penser que l'histoire était finie. Mais voilà que d'autres gardiens, parce qu'on remplaçait à chaque fois ces gardiens convertis par d'autres non convertis, et avec les yeux d'amour, quand on venait lui porter son repas, avec le regard du Seigneur Jésus dans ses yeux, eh bien, Dieu réussissait à convertir, à toucher le cœur des gardiens. On lui a crevé les deux yeux. Il ne s'est jamais plaint. Il a toujours pensé que Jésus avait plus souffert que lui, que ce que lui avait supporté. Bien-aimé, si vraiment on manifeste notre foi auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'on ne leur parle pas juste de l'amour de Dieu, mais qu'on leur parle aussi que Dieu nous demande de l'obéissance aussi. Comment on fait pour savoir que quelqu'un s'est vraiment repenti, c'est qu'il y a vraiment un changement d'attitude par rapport au péché? On ne peut pas continuer à vivre l'ancienne vie en disant « Je me suis fait baptiser. » Le baptême ne me sauve pas. On ne se fait pas baptiser pour être sauvé. On se fait baptiser parce qu'on est sauvé, bien-aimé. Parce que dans le milieu évangélique, il y a beaucoup de gens qui croient que le baptême, eh bien, ça sauve. Le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas, bien-aimé. Et dans l'Église en Occident, eh bien, on est gâté. On est vraiment gâté. Vous avez combien de versions de la Bible chez vous? Alors que le reportage que j'ai regardé, il y a des chrétiennes qui prennent une page, qui reçoivent une page, qui sont cachées, qui doivent la prendre par cœur parce qu'ils ne la reverront plus jamais, cette page-là. Ils ne pourront plus jamais la lire dans leur vie parce que la Bible est interdite dans certaines provinces de la Chine. On est gâtés, bien-aimés. On est gâtés. C'est extraordinaire. Et on sera redevable envers le Seigneur de tout ce luxe dans lequel on baigne, finalement, par rapport à d'autres frères et sœurs qui sont enfermés dans des conteneurs en plein désert, à plus de 50 degrés de chaleur, bien-aimés, et qui ne sortiront pas de là tant qu'ils n'auront pas renié leur foi. Et il y en a qui résistent, il y en a qui meurent dans ces conteneurs, il y en a d'autres qui renient ce qu'ils avaient professé pour sortir. Bien-aimés, on n'est pas au paradis ici, mais on est bien, Le monde veut nous faire croire qu'on est en paix avec eux. Mais non, il y a une guerre spirituelle, bien-aimés. Mais on a une chose, on n'est pas tout seul. Jésus nous accompagne. Dieu a ses regards sur nous, bien-aimés. Et on peut se fier sur sa parole. Demandez à ce chrétien d'un certain âge, avec toute l'expérience qu'il possède et qui a connu Dieu dans le passé, s'il peut se permettre de se passer de Dieu. Et il vous dira qu'il serait extrêmement malheureux s'il devait mettre Dieu de côté dans sa vie, parce qu'il reconnaît que c'est Dieu en Jésus-Christ qui l'a aimé et lui a donné dans sa grâce un encouragement éternel et une bonne espérance. Voilà pourquoi il est réconfortant de savoir que Dieu a continuellement les yeux fixés sur nous à chaque jour de l'année. Nous vivons des temps extrêmement difficiles, tant au niveau économique, social et spirituel. Si nous jetons un regard sur les différents événements survenus récemment, il nous est difficile de dire si les jours et les mois qui sont devant nous seront plus calmes que ceux que nous venons de passer. Qui peut le prédire? Cependant, nous sommes certains que ce que Dieu a prévu, c'est ce qui arrivera. Et ce qui est réconfortant et encourageant pour nous, c'est d'avoir la certitude que Dieu aura continuellement les yeux fixés sur ses enfants, et ce, peu importe ce qui surviendra. Nous marcherons donc avec assurance parce que nous savons non seulement que la colonne de feu et de fumée qui guidait les Israélites à l'époque ne nous abandonnera pas, mais que la manne ne cessera jamais de tomber et le rocher qui nous suit ne cessera jamais de couler pour que nous puissions nous y abreuver. Car lorsque Dieu dit qu'il aura les yeux fixés sur vous, sur moi, il veut dire qu'il sera toujours avec nous et qu'il prendra soin de nous tout au long de notre vie. Le troisième mot qui retient mon attention, c'est le mot éternel au verset, le mot éternel. C'est le mot qui retient mon attention. C'est ce Dieu dont nous parlons n'est pas un Dieu fabriqué par les hommes, c'est-à-dire une statue qui n'a aucun pouvoir et qui ne peut rien faire pour nous, mais c'est l'éternel, dit Moïse, celui qui a toujours existé et qui continuera d'exister éternellement. L'auteur ajoute que les yeux de l'éternel, ton Dieu, sont sur toi. Il est devenu notre Dieu parce qu'il a décidé dans sa grâce d'établir une alliance avec vous, avec moi, qui sommes ses créatures, afin que nous puissions vivre une relation personnelle et intime avec lui, bien-aimé. Et j'espère que ce matin dans cette salle, vous tous qui êtes présents, eh bien, vous avez toute cette certitude que vous appartenez à Jésus-Christ, qu'il marche avec vous jour après jour, bien-aimé, parce que vous marchez dans l'obéissance, bien-aimé. C'est important, l'obéissance. Sauver un jour, sauver toujours, il manque une partie. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Jésus dit dans Jean chapitre 8, « Celui qui obéit à ma parole ne mourra jamais. » On montre qu'on est vraiment né de nouveau, qu'on est sauvé, que l'ancien Jacques Hudon est mort dans ses péchés par l'obéissance qu'on démontre par rapport à celui qui a accepté de payer le prix pour vos péchés, pour mes péchés, bien-aimé. Il n'était pas obligé. Alors, vous imaginez la valeur que nous représentons aux yeux de Dieu, bien-aimé. À quel prix vous évaluez son sacrifice? Alors, si nous vivons dans le péché, on ne fera jamais de Dieu notre complice pour nos péchés. Ça lui a coûté assez cher, le péché, bien-aimé. Jamais Dieu fera des compromis avec nos péchés. Tout ce qu'il nous demande, c'est de les confesser. Si on tombe, c'est de confesser notre péché. Et Dieu les a envoyés, les a balancés, les a oubliés. C'est ce qu'il dit, c'est une promesse. J'oublie. Ça, c'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu qui est unique, bien-aimé. C'est un amour, on ne peut pas le comparer avec aucun amour terrestre, bien-aimé, parce que c'est un amour qui vient d'en haut. Voilà pourquoi, quand on dit naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Bien-aimé, on ne reçoit pas une vie d'un père humain, on reçoit la vie d'un père, une nouvelle vie d'un père qui est éternel, d'un père qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, bien-aimé. Et c'est ce Dieu-là qui vous appelle à passer l'éternité avec lui. Et je vous invite à lire Apocalypse, chapitre 21, 22. Vous allez voir que c'est deux chapitres fort encourageants pour ce qui concerne l'éternité. Plus de maladies, plus de peur, plus de guerre, plus de méchanceté, plus parce que le pécheur a été détruit. Bien-aimés, un nouveau peuple que Dieu... Il dit pas non seulement que nous allons vivre avec lui, mais que nous allons aussi vivre et régner avec lui. Je ne sais pas sur quoi nous allons régner, mais il est clair que nous allons régner. Paul en parle dans Romains et Jean en parle dans l'Apocalypse. Nous allons régner avec lui, bien-aimés. C'est extraordinaire. Mais on est qui pour régner avec Dieu, bien-aimés? Mais on est qui, bien-aimés? Mais on n'est rien. Et avec des riens, bien-aimés, Dieu en fait des pépites, Dieu en fait des miracles. Et Dieu va se glorifier à travers ceux qui disent, soi-disant pour le monde, qui sont rien. C'est extraordinaire, bien-aimé. Essayez d'y penser. Pensez à ça, bien-aimé. Heureusement que Dieu n'a pas décidé de prendre juste les intelligents. Heureusement que ce n'est pas au niveau de notre tête qu'il nous a choisis, c'est au niveau de notre cœur, bien-aimé. Avoir un cœur pour Dieu, ça n'a pas de prix pour lui, bien-aimé. Et ce Dieu-là a accepté de passer, qu'on passe l'éternité avec lui. Dieu aurait été capable de vivre tout seul, bien-aimé. Il n'aurait pas été déprimé. Il n'aurait pas eu besoin de prendre de pilules, bien-aimé. Dieu se suffit à lui-même. Mais il a décidé, dans sa grande bonté, dans sa grâce incommensurable, de dire, écoutez, je veux que vous partagiez l'éternité avec moi, avec tout ce que je suis en train de préparer. C'est pas extraordinaire, ça, bien-aimé? Mais ça vaut la peine de marcher en nouveauté de vie avec lui. Ça vaut la peine de dire non au péché, puis de dire oui à celui qui a vaincu le péché, bien-aimé, sur la croix. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu est en train de nous préparer. Il ne nous a pas tout révélé, parce que sinon, on n'aurait pas besoin de la foi. Mais on marche par la foi parce qu'on sait que Dieu n'est pas menteur, que Dieu dit la vérité. Et qu'est-ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va réaliser. Vous dites amen à ça. Rapidement, hein? Rapidement, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Il est non seulement devenu notre Dieu, mais à travers le privilège de cette relation personnelle que nous avons avec lui, il est aussi devenu notre Père. Et ce Père, celui qui est tellement grand que le ciel ne peut le contenir, a pourtant accepté de venir sur la terre dans la personne de Jésus-Christ pour que tous ceux qui croient en lui deviennent ses enfants. Permettez-moi maintenant de lire le verset 12 à l'envers. On va le lire à l'envers. En vous rassurant tout de suite que je ne cherche pas à tordre les Écritures. Imaginons que le texte aurait été écrit de cette façon. Au lieu de dire que les yeux de Dieu sont sur son peuple, lisons le texte de la façon suivante. Les yeux du peuple de Dieu sont continuellement fixés sur lui du commencement jusqu'à la fin de leur pèlerinage terrestre. Je vais le répéter. Les yeux, non pas de Dieu, mais les yeux du peuple de Dieu, vous qui appartenez au peuple, les yeux du peuple de Dieu sont continuellement fixés sur lui du commencement jusqu'à la fin de leur pèlerinage terrestre. Bien-aimé, si Dieu s'engage à fixer ses yeux continuellement sur nous tous les jours de notre vie, ne croyez-vous pas que nous devons nous engager, nous aussi, à fixer continuellement nos yeux sur lui, afin de toujours nous rappeler non seulement ce qu'il a fait pour vous, pour moi, mais nous rappeler aussi ô combien nous dépendons de lui en toutes choses et qu'il marche avec nous tous les jours de l'année. Lorsque Dieu nous voit, qu'est-ce qu'il voit? S'il nous regarde en nous-mêmes, car nous sommes tellement indignes qu'il puisse porter ce regard sur nous, heureusement qu'il nous voit à travers la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous vivons dans un monde tellement étrange, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent satisfaire quelqu'un, et pourtant, pour une raison ou pour une autre, il nous arrive parfois d'oublier les choses même qui pourraient nous rendre heureux, car trop souvent, il nous arrive de fixer nos yeux sur les choses frivoles de ce monde et les soucis de toutes sortes qui nous distraient. Nous finissons par nous coucher le soir et sans nous être rappelés, si ça nous arrive, sans nous être rappelés durant la journée de l'amour que Dieu a manifesté pour nous, ce qui est de beaucoup préférable à tout ce que le monde peut nous offrir pourtant. Et nous terminons parfois la journée par une prière faite à la va-vite qui n'en est pas vraiment une. Car si nous réfléchissons bien, que pouvons-nous lui dire le soir avant de nous coucher, s'il a été absent de votre vie, de ma vie, pendant toute une journée. Si vous et moi, nous aspirions à vivre sans Dieu, nous serions franchement mieux de vivre dans le monde et dans le péché, plutôt que d'essayer d'être heureux en pratiquant une religion sans Jésus. Il est tout à fait impossible pour un vrai chrétien d'être heureux si Christ n'est pas présent dans sa vie. Sinon, il est le plus misérable de tous les hommes. C'est ce que Pierre dit dans son épître. Et si nous ne sommes pas en relation avec Dieu, nous sommes malheureux, car Dieu a décrété que l'homme ne peut vivre heureux sans lui. Laissez-moi vous rencontrer un témoignage. Il y a une église qui m'a appelé un jour pour essayer de gérer un chrétien qui est esclave de la drogue, esclave de la boisson, esclave des femmes. Alors, en fait, pour vous donner une idée, il touche 2000 euros par mois et au bout de deux semaines, il ne reste plus d'argent tellement il dépense dans les choses dans lesquelles il est esclave. Et ce gars-là, écoutez, je l'ai rencontré avec deux anciens d'une église. Il nous déversait des versets. Il connaissait plus de versets que moi, quoi. Et à chaque fois qu'on essayait de lui faire comprendre, il nous sortait un verset pour se protéger. Et à un moment donné, je lui ai dit, en connaissant son histoire, je lui ai dit, écoute, arrête de dire que tu es un chrétien tant ou aussi longtemps que ta vie ne reflète pas que tu appartiens à Jésus-Christ. Et bien aimé, dans l'Église de Jésus-Christ, on doit faire la même chose. Ne disons pas à personne que nous sommes chrétiens si notre vie ne reflète pas la personne de Jésus-Christ. Je rencontre des gens là qui ont été dégoûtés du christianisme à cause de mauvais témoignages. De mauvais témoignages. Ah, c'est ça l'Église, c'est ça des chrétiens. Non, c'est pas ça. Un vrai chrétien, c'est pas ça. Un vrai chrétien, c'est celui qui a reçu les yeux de Jésus-Christ. Il regarde ces gens qu'ils ont perdus. Et dans son cœur, il est touché de voir que ces gens, ils sont sans berger, qui suivent un chemin qui est large, qui mène à la perdition. Quand il ouvre la bouche, c'est non seulement pour parler de l'amour de Dieu, mais leur dire pourquoi Dieu les aime, jusqu'à quel point que Dieu les aime. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu si on n'a pas parlé d'abord du péché, bien-aimé. Je sais que c'est pas populaire, ce message, aujourd'hui, mais moi, il y a des gens, avant que je devienne vraiment chrétien, qui me parlaient de l'amour de Dieu. Je me disais, mais pourquoi moi j'aimerais... Ça me sert à quoi, moi, que Dieu m'aime, que je vois pas, alors que je peux avoir les femmes que je veux dans ma vie? Ben oui. Hein? Ben oui. Il faut d'abord dire pourquoi Dieu t'aime. Pourquoi? Et là, on y va à la croix. Et c'est pas nous qui convertissons, bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui convertit. C'est ça qui est intéressant. C'est le Saint-Esprit qui convertit. Nous, on est simplement des ambassadeurs, on est des pèlerins qui sommes là pour partager l'amour que Jésus a manifesté dans nos vies, qui a bouleversé nos vies, qui a changé nos vies, qui nous a donné une autre espérance que celle que le monde nous offre. C'est pas de l'argent, c'est autre chose, bien-aimés, qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. C'est le salut en Jésus-Christ. Et j'espère que ce matin, vous vivez cet amour encore aujourd'hui. Même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il est tellement facile de tomber dans la religion chrétienne, bien-aimé. N'oubliez pas une chose, la religion évangélique, ça existe. Ça existe. Quand j'entends des gens qui me disent qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont fait l'école du dimanche, le groupe de jeunesse, parce qu'ils se sont fait baptiser, moi, ça me fait mal au cœur, quoi. C'est pas ça qui amène au salut. C'est pas ça qui amène au salut. C'est lui. Imaginons que nous décidions maintenant d'avoir toujours nos yeux fixés sur Jésus, jour après jour, d'être toujours conscients qu'il nous voit. Imaginons que nous décidions d'être toujours sensibles à sa présence. Plus encore, d'avoir toujours envie d'obéir à sa parole et de témoigner de Jésus. Christ, lorsque l'occasion se présente, quelle chose merveilleuse ce serait, n'est-ce pas? Frères et sœurs, nous croyons en un grand Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que nous demandons et même au-delà de ce que nous pensons. Pourquoi ne pas nous attendre à de grandes choses de lui chaque jour qu'il nous donne de vivre sur la terre? Si vous demandez, c'est parce que vous savez que Jésus a dit que vous allez recevoir et que vous allez demander ce que vous allez demander. Pourquoi? Parce que vous savez que qu'il est en mesure de vous donner tout ce que vous demandez, qu'il le glorifie. Qu'il le glorifie. Et en tant que chrétien, il faut penser aussi que quand Dieu dit non, c'est une réponse aussi. C'est aussi une réponse. Dieu se connaît, il sait très bien ce qui est le meilleur pour vous. Et il va vous répondre, si c'est votre prière, cherche à le glorifier, il va se glorifier en vous disant non aussi. Parce qu'il sait qu'il va se glorifier, mais en même temps que ça peut vous faire mal. Vous s'y répondez directement à tout ce que vous lui demandez. Bien-aimé, on a un Dieu qui est patient avec son Église. On a un Dieu qui est patient avec son Église comme il a été avec les Israélites pendant un certain nombre d'années. Vous savez, si les Israélites étaient sortis de l'Égypte, bien, l'Égypte n'était pas sortie des Israélites. Voilà pourquoi il y en a deux. Deux parmi la génération qui est sortie, qui a quitté l'Égypte parmi les millions, qui ont réussi à rentrer dans la terre promise. Deux. Toutes les autres, ils avaient adopté la religion des Égyptiens, bien-aimés. Ça leur plaisait. Ça leur plaisait, bien-aimés. Vous avez vu que le veau d'or, qui l'a fabriqué, ce fameux veau? Hein? Oui, c'est Aaron, le grand prêtre, bien-aimés. Oui. 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 Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les avait pas quittés. Leur cœur était encore avec l'Égypte. Comme la femme de Lot, qui a quitté Sodome, mais Sodome n'avait pas quitté son cœur. Et en tournant la tête, elle a démontré ce qu'elle préférait le plus. Ce n'était pas Dieu, c'était le monde, avec tous ses attraits. Bien-aimés, puisque les yeux de Dieu sont fixés sur nous, prenons la décision de fixer non seulement les nôtres sur lui, mais prenons aussi la décision, si ce n'est pas le cas, de vivre en relation étroite avec le Seigneur notre Dieu, en nous soumettant entièrement à sa parole. Cherchons à demander à Dieu ce que Moïse lui a demandé. Je peux vous le dire, dans Exode chapitre 33, verset 18, « Fais-moi voir ta gloire. Hey. » Bien-aimés, c'est une prière qu'on peut faire aussi, hein? Ce n'est pas une prière qui est exclusive à Moïse. Hein? Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Ouais. Vous savez faire une prière de la sorte? C'est quelqu'un qui marche fidèlement en obéissance avec le Seigneur, bien-aimé. Fais-moi voir ta gloire. C'est trois choses, la gloire de Dieu. C'est d'abord sa présence. C'est d'abord sa puissance. Et la troisième, elle vous concerne, bien-aimé. C'est de nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est plus difficile. C'est de nous amener. Romains chapitre 8, verset 29. Nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ, bien-aimé. Qu'on ne soit pas obligé de porter un T-shirt où c'est marqué « Je suis chrétien » pour que les gens sachent qu'on est chrétien. Mais par notre façon d'agir, notre façon de parler, par notre comportement, bien-aimé, les gens se disent « Hey, il y a quelque chose de spécial dans cette personne-là. Moi, je vais l'avoir. » C'est ça qui m'a attiré, moi. C'est ça qui m'a attiré au Seigneur, hein. J'ai entendu une petite voix qui était celle du Saint-Esprit, que je n'avais pas identifié à ce moment-là parce que j'étais perdu, qui m'a dit, « Ce que tu cherches depuis toujours, lui, il est là, et c'est gratuit. » Extraordinaire, hein? Extraordinaire. Il ne m'avait même pas parlé du Seigneur. Mais ce qui dégageait, bien-aimé, ça venait d'en haut. Ce n'est pas la connaissance qui sauve, bien-aimé. Ce n'est pas la connaissance qui sauve. Il y a les grands théologiens qui ont été perdus pour l'éternité. Ce n'est pas la connaissance. Les pharisiens connaissaient la parole de Dieu, mais ils ne connaissaient pas le Dieu de la parole, bien-aimé. Ce qui est important, c'est de connaître le Dieu de la parole. Imaginons maintenant que nous effaçons complètement le texte pour terminer. Non pas que nous pouvons effacer le texte ou que nous oserions le faire si nous le pouvions, mais simplement imaginez que ce verset n'existe pas dans la Bible. Il ne se trouve pas dans la Bible et que vous et moi, nous devrions vivre toute l'année sans que les yeux soient fixés sur nous, sans savoir que Dieu a ses yeux fixés sur nous. C'est-à-dire que nous ne nous trouverions aucun moment particulier où nous aurions la certitude que le Seigneur veille sur vous, sur moi, ou qu'il manifeste sa bonté envers nous. Et ce, pendant les mois qui viennent. Imaginez qu'il n'y ait personne qui nous puissions appeler parmi ceux que nous connaissons pour nous aider. Quelle supposition malheureuse, n'est-ce pas? Cela signifierait qu'on ne pourrait compter sur aucune promesse, aucun secours spirituel, aucun réconfort, aucune aide pour nous consoler si Dieu avait disparu et si Dieu n'existait pas. Non pas que nous pouvons effacer le texte ou que nous oserions le faire si nous le pouvions, mais simplement imaginer que ce verset ne se trouve pas dans la Bible et que vous et moi, nous devrions vivre toute l'année sans que les yeux de Dieu soient sur nous. C'est-à-dire que nous ne trouverions qu'un moment particulier où nous aurions la certitude que le Seigneur veille sur nous ou qu'il manifeste sa bonté envers nous, et ça, du commencement jusqu'à la fin de l'année. Imaginez qu'il n'y a personne que nous puissions appeler parmi ceux que nous connaissions pour nous aider. Nous rassemblerions un enfant qui a perdu son père. Nous serions sans défense, semblables à un arbre qui manque d'eau pour ses racines. Et pourtant, c'est le cas pour vous, si vous ne connaissez pas Dieu ce matin. Mais même si vous avez déjà vécu 20, 30 ou 40 ans sans Dieu, sans prier, sans foi, sans espérance, si vous prenez la décision de commencer à prier aujourd'hui, il vous entendra chaque fois et il vous répondra. Vous dites « Amen » à ça. C'est pas fort, ça, par contre. On va monter le volume encore un peu. Ah, merci. 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 Gloire à Dieu pour cela. Soyez assurés non seulement qu'il vous répondra chaque fois, mais qu'il veillera sur vous, qu'il vous bénira si vous le cherchez de tout votre cœur. Mais si vous méprisez sa bonté, si vous vivez sans communion avec lui, vous êtes alors toujours sans Dieu, sans Christ, sans espérance, et il en sera ainsi tant et aussi longtemps que vous ne prendrez pas de décision pour lui. Peut-être que si je pouvais rendre ce texte négatif, je vous dirais, les yeux de Dieu ne seront pas sur vous à chaque jour de l'année, et Dieu ne vous entendra pas et ne vous bénira pas, mais ce n'est pas ça que le texte biblique nous dit. Ne laissons jamais le malin nous faire pénétrer de ses paroles. Chers amis, si vous avez un vif désir de le chercher dans votre cœur, le Seigneur vous entendra. Il se laissera trouver, et il vous bénira en vous accordant son salut. Chers amis, peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez vous attendre à vivre des épreuves et à rencontrer des difficultés de toutes sortes. mais que votre cœur demeure dans la joie et dans la paix, parce que Dieu promet qu'il aura les yeux fixés sur vous, vous qui lui appartenez tous les jours de votre vie. Voilà où se trouve votre certitude. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ promet qu'il ne vous laissera pas et qu'il ne vous abandonnera pas. Cela signifie qu'il veillera sur vous. Jésus a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain, eh bien, aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande, l'obéissance. Et Dieu vous accordera par-dessus tout le reste. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin, ne vous inquiétez donc point. Si vous obéissez au commandement que je vous prescris, Deutéronome, chapitre 11, verset 13, le suivant. Si vous obéissez au commandement que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, même en pleine période de recherche, de sécheresse, pardon, le Seigneur vous fera reposer dans de verts pâturages, et il vous dirigera vers des eaux paisibles. Que cela soit votre désir, jour après jour, le mien aussi, jusqu'à ce qu'il vous rappelle à lui. Dieu dit, j'aurai continuellement les yeux fixés sur vous du commencement à la fin de l'année. Il ajoute, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alors, si vous êtes dans la souffrance ce matin, déchargez-vous de tous vos fardeaux sur celui qui peut les porter. Appuyez-vous sur Dieu, rappelez-vous qu'il a promis d'avoir les yeux fixés sur vous à chaque jour de l'année. Cela vous fortifiera tout au long de votre vie. Que notre Dieu si gracieux, qui nous aime tant, nous accompagne du commencement jusqu'à la fin de l'année à travers notre Seigneur Jésus-Christ et qu'à travers vous, qu'à travers moi, il puisse encore accomplir des miracles et rajouter à son Église. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre patience. Merci pour votre présence ce matin.